Moi, j'en ai un peu marre d'être le tiroir caisse pour payer des iPhones et des vacances à ceux qui ne travaillent pas, en fait.
Aux alentours de 2500 euros de retraite, Jean, vous n'avez pas le sentiment d'être un retraité aisé, comme on dit?
Pas du tout. On en a marre, nous, les jeunes qui travaillons. Moi, j'ai 39 ans, ça fait depuis que j'ai 17 ans que je travaille. Il me reste rien du tout. Une fois que j'ai payé mon carburant, mon loyer et que j'ai fait les courses, il me reste quoi?
Il va vous rester quoi? 700, 800 euros par mois net pour vous faire plaisir?
J'ai aucun plaisir, j'ai rien du tout. Je travaille depuis que j'ai 17 ans et demi.
Ah, t'as aussi des retraités avec plusieurs résidences secondaires. Je veux dire, ça arrive.
Parce que c'est le fruit de leur travail. Ils l'ont pas volé.
Les gens, ils sont pas plus pauvres qu'avant. Je n'y crois pas une seconde. Ils se sont créés des besoins qu'ils n'avaient pas avant.
Non, mais elle est de combien votre retraite aujourd'hui?
Elle est de 2200 euros, monsieur. Et alors, j'ai du mal maintenant, hein, entre l'héritage que j'ai eu de mes parents, donc la taxe foncière. Alors les locataires n'en payent pas. Et ils sont logés gratis, eux, alors.
Si les retraités ont de l'épargne, c'est qu'ils savent gérer.
Oh. Et nous, non, et nous, on est comme ça, là, on balance l'argent par la fenêtre, on s'achète des gadgets et des iPhones.
Bienvenue dans ce quatrième épisode de notre série « Les boomers ont-ils eu la vie facile ?» Après le travail, le logement, puis le patrimoine, nous allons cette fois-ci aborder l'un des sujets les plus piégeux du débat générationnel. Le pouvoir d'achat et le niveau de vie, afin de tenter de répondre à cette question. À âge comparable, entre 20 et 30 ans, les boomers ont-ils eu la vie facile sur le pouvoir d'achat et le niveau de vie par rapport aux jeunes d'aujourd'hui? Commençons par la première partie. Revenons dans les années 70. Durant cette période, le monde était moins équipé, moins moderne et parfois beaucoup plus rude matériellement, comme nous l'avons vu dans notre épisode dédié au logement.
Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas, surtout pas d'hygiène, il n'y a pas de WC. Il faut aller faire dans un seau et le passer entre la cuisine, passer dans la salle à manger et aller le mettre dans une fosse qui se trouve dans la...
En 1968, moins d'un logement sur deux disposait d'une douche ou d'une baignoire. En 1975, la situation s'était déjà améliorée, mais le confort restait très loin des standards actuels. Environ 40% des logements ne disposaient toujours pas du confort sanitaire complet. En 2018, c'est 99%. Donc, sur le confort sanitaire de base, le progrès est massif. Cela veut dire qu'une partie importante des logements de l'époque n'avait pas encore ce que nous considérons aujourd'hui comme le minimum. Et ce manque de confort ne concernait pas seulement la salle de bain ou le chauffage. Il concernait aussi les objets du quotidien. Aujourd'hui, un lave-linge, un réfrigérateur ou un micro-ondes semblent presque évidents. Ce sont des objets banals que l'on trouve à tous les prix, parfois même d'occasion, pour quelques dizaines ou centaines d'euros. Mais dans les années 1970, ces équipements représentaient encore un investissement beaucoup plus lourd. En 1973, pour une machine à laver, il fallait compter environ 1000 euros. Même chose pour un réfrigérateur. Pour une chaîne radio, il fallait compter plus de 1600 euros. Oui, vous avez bien entendu. Pour les lave-vaisselle, nous étions à 2000 euros, voire 3000 euros. Même plus tard, à la fin des années 1980, un micro-ondes pouvait encore représenter près de 600 euros actuels. Nous sommes donc vraiment très loin des prix que nous connaissons aujourd'hui. Beaucoup de choses que nous considérons aujourd'hui comme normales, c'est-à-dire laver son linge à la maison, conserver facilement ses aliments, chauffer correctement son logement, avoir une salle de bain, disposer d'appareils ménagers, etc., étaient soit absentes, soit beaucoup plus difficiles à acquérir. Mais c'est précisément ici que le piège commence. Parce qu'à ce stade, si l'on s'arrête uniquement au confort matériel, la conclusion semble presque évidente. Oui, les jeunes d'aujourd'hui vivent mieux. Le monde d'avant n'était pas un monde plus agréable matériellement parlant. Mais le pouvoir d'achat, ce n'est pas seulement la quantité d'objets disponibles autour de vous. C'est aussi ce que vous pouvez faire avec votre revenu au moment où vous commencez votre vie. Parce que dans ce monde moins confortable, il existait une chose que les jeunes adultes d'aujourd'hui ont beaucoup plus de mal à retrouver et qui ne s'achètent pas. Une trajectoire économique plus stable. Comme nous l'avons vu dans nos précédents épisodes, l'entrée dans la vie active se faisait plus tôt. La génération née en 1945 sortait de formation initiale à un peu plus de 17 ans, alors que la génération née en 1990 terminait ses études autour de 21 ans. Or, si vous entrez plus tôt dans l'emploi, vous commencez plus tôt à gagner un revenu, à cotiser, à vous stabiliser et parfois même à épargner ou acheter. Et surtout à l'époque, l'entrée dans l'emploi stable était beaucoup plus directe. En 1982, parmi les jeunes de moins de 25 ans qui étaient en emploi, 75% occupaient un emploi stable. En 2023, ce n'est plus que 43%. Et cette trajectoire plus rapide se retrouvait aussi dans les revenus.
345 francs chaussures.
Écoute, c'est le prix à avoir dans les boutiques.
Le problème, c'est de ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne.
Oh, écoute, c'est pas à plaindre.
Il faut encore que je fasse virer du compte d'épargne sur le compte de chèque.
Dans les décennies d'après-guerre, le pouvoir d'achat progressait très vite. Dans l'épisode travail, nous avions rappelé que l'indice du pouvoir d'achat du revenu disponible par unité de consommation passe de 100 en 1960 à 204,9 en 1978. Autrement dit, il double en moins de 20 ans. C'est un détail fondamental. Cela veut dire qu'une personne entrée jeune sur le marché du travail pouvait voir son niveau de vie progresser fortement au cours de sa première partie de carrière. Et cet avantage devient encore plus visible lorsqu'on regarde les dépenses contraintes. En 1975, les dépenses préengagées représentaient environ 19% du revenu disponible brut, dont 14% pour le logement. En 1985, 26%, dont 18% pour le logement. Aujourd'hui, nous sommes à 30% de dépenses préengagées, dont presque 23% pour celles liées au logement. Donc même dans les années 80, où la situation économique se tend, la part de dépenses contraintes restait encore loin des niveaux actuels. Et surtout, comme nous l'avons vu dans l'épisode dédié au logement, les prix immobiliers étaient beaucoup plus proches des revenus. Même si le crédit était lourd au départ, l'inflation élevée réduisait bien plus vite le poids réel d'une mensualité fixe. Aujourd'hui, les prix de départ sont tellement plus élevés que l'endettement dure beaucoup plus longtemps, avec des dépenses préengagées qui viennent resserrer un peu plus l'étau. Les boomers n'ont pas connu un monde plus confortable, mais même si la vie matérielle était plus rude, même si les logements étaient moins confortables et que les équipements coûtaient plus cher, l'entrée dans la trajectoire adulte pouvait être beaucoup plus rapide, avec toutes les conséquences que cela induit. Et c'est précisément ce que nous allons comparer maintenant avec le présent. Tout d'abord, si l'on regarde la société française dans son ensemble, elle s'est enrichie. Les revenus moyens ont monté, le confort matériel a progressé, les logements sont beaucoup mieux équipés qu'avant, et il y a une multitude de biens et de services qui n'existaient même pas en 1975. Le niveau de vie médian après redistribution a augmenté de 56% entre 1975 et 2016 en euros constants. Les ménages disposent aujourd'hui de plus de ressources qu'il y a 50 ans. Dans la série longue de l'INSEE, le pouvoir d'achat arbitrable par unité de consommation est à l'indice 145,1 en 2019, base 100 en 1975. Et la progression ne s'est pas arrêtée là. Il augmente encore de 0,4% en 2023, puis de presque 3% en 2024. D'ailleurs, on entend souvent que si les jeunes s'en sortent moins bien aujourd'hui, c'est parce qu'ils dépensent trop dans les vêtements, loisirs, téléphones, abonnements, etc. C'est l'un des arguments les plus fréquents.
Si les retraités ont de l'épargne, c'est qu'ils savent gérer.
Oh.
Nous, on fait par rapport à ce que l'on a.
Bah oui, vous avez fini de payer votre logement, vous avez fini de payer vos crédits.
Mais je suis désolée, il va bien falloir à quelques moments se poser les questions.
Ah, c'est à nous de nous les poser, les questions,
mais
bien sûr.
Mais bien sûr.
Pour comparer, nous allons prendre une étude de l'INSEE qui indique la consommation des ménages par fonction, en 1964 et en 2024. La part des dépenses de communication passe de 1,5% à 3,6%. Cela inclut les différents abonnements, les achats de téléphone, etc. Donc même si de nombreux services, et parfois besoins, de communication sont apparus depuis 1964, ce n'est pas ce qui impacte le plus le budget. Même chose pour l'habillement, qui passe de 12,6% en 1964 à 3% seulement en 2024. La part des loisirs et cultures est restée stable, à 7%. L'alimentation, par contre, pèse beaucoup moins dans le budget des ménages, passant de 21% en 1964 à 12% aujourd'hui. La part des dépenses en hôtels, cafés et restaurants a en revanche bien augmenté. Nous passons de 5% à 8,6% en 2024. nous remarquons aussi que la part des autres biens et services, entre guillemets, a augmenté. Nous étions à 8,5% contre 14,4% aujourd'hui. L'INSEE précise que plus de la moitié de la part de cette catégorie vient des dépenses d'assurance. Mais ce qui a réellement explosé, et nous l'avons déjà abordé dans nos précédents épisodes, c'est bien le logement, le chauffage, l'éclairage, qui passe de 14,5% à presque 28% en 2024. Donc lorsqu'un budget est sous pression, le poste qui écrase tout est bien le logement. Même chose pour certains usages de la vie quotidienne, comme les vacances. Là aussi, on peut parfois entendre que les jeunes partent beaucoup plus en vacances. Entre 1964 et 2004, le taux de départ en vacances passe de 43% à 64% dans l'ensemble de la population. Mais chez les 20-34 ans, nous passons seulement de 62% en 1979 à 65% en 2004. En revanche, chez les 50-64 ans, nous passons de 50% à 66%. Autrement dit, la démocratisation des vacances existe bien, mais ce ne sont pas les jeunes adultes qui en ont le plus profité. Ce sont surtout les âges les plus élevés. Et ce n'est pas tout. Selon l'INSEE, les séjours se sont aussi raccourcis au fil des générations. Les générations plus anciennes, notamment celles nées entre les années 1930 et 1950, pouvaient encore partir autour de 14 à 17 jours à l'âge adulte. Donc oui, davantage de gens partent, mais cela ne signifie pas pour autant que les jeunes adultes disposent de plus de marge pour partir plus longtemps, contrairement à ce qui est souvent dit. Les jeunes retraités sont les grands bénéficiaires de la reprise des départs. Donc oui, il y a bien eu une démocratisation de certains conforts et loisirs. Mais une part de plus en plus grande de ces ressources est déjà captée avant même qu'on puisse parler de liberté de choix, comme nous l'avons vu précédemment. Et surtout, cette hausse moyenne ne dit pas qui en a bénéficié le plus. Le basculement le plus fort est là. En 1979, un adulte de 30 à 34 ans avait en moyenne un revenu net des prélèvements obligatoires 9% plus élevé que celui des 50-54 ans. En 2019, c'est l'inverse. Les 30-34 ans sont 13% en dessous des 50-54 ans. En d'autres termes, à cette époque, à l'âge où l'on démarrait vraiment sa vie d'adulte, on occupait une place économique relativement haute dans l'échelle des âges. Aujourd'hui, cette place s'est abaissée. Et si on regarde du côté des retraités, le mouvement est tout aussi fort. Leur niveau de vie médian était très inférieur à celui des salariés dans les années 1970. Or, depuis 2012, leur niveau de vie médian avant redistribution dépasse dorénavant celui des actifs.
Ils se sont gavés. Je fais des paris sur qui conduit le camping-car. Qui a les moyens aujourd'hui de s'acheter un petit plaisir à 50 000 euros ? Je suis désolé. Qui a des résidences secondaires ?
La France s'est enrichie, mais la position relative des jeunes adultes s'est dégradée. Aujourd'hui, le taux de pauvreté des 18-29 ans atteint 17,5%. Chez les 65-74 ans, il est de 10,9%. Et même si les indicateurs ne sont pas strictement identiques, la comparaison historique de l'INSEE-DGI donne un ordre de grandeur frappant. En 1970, la pauvreté est surtout une pauvreté âgée. Elle augmente fortement après 60 ans et atteint presque 40% chez les plus âgés. En 1997, c'est l'inverse. Les seniors sont beaucoup moins exposés, tandis que les ménages de moins de 25 ans deviennent les plus touchés, avec un taux atteignant de plus de 20%, alors qu'ils ne sont qu'entre 5 et 10% entre 1970 et 1979. La pauvreté s'est déplacée. Elle frappait davantage la vieillesse dans les années 70 et elle pèse beaucoup plus aujourd'hui sur l'entrée dans la vie adulte. Et c'est là que le logement devient décisif par rapport à la situation des jeunes adultes. Nous pourrions être tentés de dire « Les logements sont plus grands qu'avant, donc tout le monde y gagne. » Sauf que ce n'est pas vrai, de la même façon selon l'âge. Les travaux publiés par l'INSEE montrent qu'entre 1985 et 2006, l'agrandissement des logements a surtout profité aux ménages de plus de 50 ans. Tandis que la surface moyenne des logements des moins de 30 ans s'est au contraire resserrée d'environ 10 mètres carrés. Et lorsque l'on regarde les écarts d'âge à date récente, ils sont immenses. En 2013, les ménages de moins de 30 ans vivent en moyenne dans 57 mètres carrés à 1,8 personnes, alors que les 65 ans ou plus vivent dans 95 mètres carrés à 1,6 personnes. L'INSEE résume cela d'une formule très simple. Les moins de 30 ans disposent d'un peu plus de 30 mètres carrés par personne et les 65 ans ou plus d'environ 60 mètres carrés. Alors oui, le parc des logements s'est amélioré, mais cette amélioration ne se traduit pas de la même manière selon l'âge. Car dans le même temps, l'accès à l'autonomie résidentielle s'est retardé. En 2013, 65% des 18-24 ans vivent encore chez leurs parents, contre 59% en 1973. Chez les 25-29 ans, nous passons de 14% à 20,5%. Donc les logements sont plus confortables, les équipements sont plus nombreux. Le niveau de vie moyen a progressé. Mais derrière cette amélioration générale, il faut surtout se demander quels efforts faut-il fournir aujourd'hui pour atteindre ce niveau de vie ? Aujourd'hui, les jeunes adultes commencent plus bas dans la hiérarchie des revenus au moment même où les dépenses fixes pèsent plus lourd qu'auparavant. Pourtant, certains pourront dire « Oui, mais les salaires ont tout de même augmenté depuis les années 70, donc les jeunes d'aujourd'hui sont forcément gagnants. » Et cet argument n'est pas entièrement faux. Les salaires ont bien progressé sur une longue période. L'INSEE indique par exemple qu'en euros constants, entre 1996 et 2018, le salaire annuel net moyen en équivalent temps plein dans le secteur privé a augmenté de 13%, soit 0,6% par an en moyenne. Et si l'on remonte plus loin, pour les salariés à temps complet, le pouvoir d'achat des salaires progresse en moyenne de 2,0% par an depuis 1951. Mais si l'on regarde plus en profondeur, certains indicateurs montrent une autre facette. Parce que la progression n'a pas été la même selon les périodes. Les salaires ont progressé très vite pendant les 30 Glorieuses jusqu'au deuxième choc pétrolier, avec plus 4,3% par an en moyenne jusqu'en 1978. Ensuite, le rythme ralentit fortement. Plus 0,5% par an en moyenne entre 1978 et 2018. Donc les salaires ont augmenté, mais pas au même rythme selon les générations. Alors, quelle place occupe-t-on à 30 ans dans la hiérarchie salariale de son époque ? Parce qu'un jeune adulte peut très bien gagner plus en euros constants qu'un jeune d'il y a 50 ans, tout en étant moins bien placé dans l'économie qui l'entoure.
Peut-on vivre décemment aujourd'hui en France en touchant moins de 2200 euros net par mois lorsqu'on connaît le prix des loyers qui augmente, l'inflation, le prix des denrées alimentaires, les charges fixes également?
Je touchais 2300 euros net.
Et vous arrivez à faire face au quotidien ou pas alors du coup?
Bien sûr que non.
Cette bascule se voit très clairement dans les salaires. L'INSEE montre qu'à 30 ans, les salariés nés autour de 1940 gagnaient en moyenne 1,24 fois le salaire moyen de leur époque. Ceux nés autour de 1950 étaient encore légèrement au-dessus, à 1,02 fois le salaire moyen. Mais ensuite, la position des jeunes adultes se dégrade. 0,90 pour la génération 1960, 0,82 pour la génération 1970 et 0,81 pour la génération 1980. Donc le basculement ne concerne pas seulement les prix ou le logement. Il concerne aussi la position relative des jeunes adultes dans l'économie.
Vous avez l'impression, vous, à 21 ans, de vivre moins bien que peut-être vos parents ou vos grands-parents ?
Oui, profiter pour quoi faire ? On ne peut pas. Je touche 1800 euros à partir en vacances, je ne peux pas me permettre.
Et ce n'est pas tout. Lorsque nous disons que le niveau de vie moyen a augmenté, nous oublions souvent qu'une partie de cette hausse tient aussi au fait que les ménages mobilisent davantage de travail qu'avant, notamment avec la montée de l'activité féminine. Chez les 25-49 ans, le taux d'activité des femmes est passé de 61% en 1975 à 84,5% en 2023. C'est un progrès social majeur, mais économiquement, cela change complètement la comparaison. Donc si le foyer d'aujourd'hui dispose de plus de ressources, c'est aussi parce qu'il mobilise plus souvent deux adultes sur le marché du travail par rapport à l'époque des boomers. Et même ce deuxième revenu ne signifie pas automatiquement deux revenus équivalents. Car en 2024, dans le secteur privé, les femmes gagnent encore en moyenne 13% de moins que les hommes en équivalent temps plein. Abordons maintenant un autre point fondamental. Quelle marge réelle reste-t-il une fois les dépenses fixes payées ? Car entre la richesse produite par l'économie, le coût total du travail, le salaire brut, le salaire net, puis ce qu'il reste après le logement et les dépenses fixes, l'écart peut être très important. C'est précisément ce que montre le document de travail de l'IRES sur l'évolution des salaires depuis 1950. Nous essayons de voir ce qui arrive au pouvoir d'achat du travail pour un niveau de qualification comparable. Et là, la rupture est très nette. Entre 1950 et 1978, le pouvoir d'achat du salaire net à qualification constante progresse en moyenne de 3,5% par an. Sur la même période, le salaire brut progresse de 4% par an et la rémunération totale de 4,3% par an. Autrement dit, dans la période où les boomers entrent dans la vie active, les salaires réels progressaient vite. Mais après 1978, le mouvement change complètement. Entre 1993 et 2017, il recule encore de moins 0,1% par an. Et entre 2017 et 2022, la baisse finit par atteindre moins 0,9% par an. Et le rapport COTIS permet de voir une autre partie du problème. Depuis 1959, la valeur ajoutée a été multipliée par 5 environ. Mais le salaire net par tête, lui, n'est supérieur en 2007 à son niveau de 1959 que de 2,7 fois. Vous l'aurez donc compris, la richesse produite a beaucoup plus augmenté que le salaire net directement perçu. En 2024, dans le secteur privé, le salaire mensuel moyen en équivalent temps plein est de 3602 euros bruts, mais de 2733 euros nets après cotisation et contribution sociale. De plus, la moitié des salariés du privé perçoit moins de 2190 euros nets par mois en équivalent temps plein. Et si l'on élargit encore, entre ce que le travail coûte à l'employeur et ce qui revient directement aux salariés, l'écart s'est aussi creusé. En 1959, les cotisations sociales représentaient 27% des salaires superbruts. Cette proportion était passée à 30% en 1975. Au milieu des années 90, elle était de 42%.
Le travail aujourd'hui ne permet plus d'élever son niveau de vie. Dans les années 70, vous pouviez doubler votre niveau de vie en travaillant en l'espace de 15 ans. Aujourd'hui, il faut 80 ans de travail pour doubler son niveau de vie.
Alors, au final, la question n'est pas simplement: est-ce que les jeunes d'aujourd'hui gagnent plus comparé aux boomers de 1975? Mais plutôt, à 25 ou 30 ans, est-ce que les salaires d'aujourd'hui permettent encore d'entrer aussi vite et facilement dans une vie autonome? C'est ici que la comparaison prend un tout autre visage. Car oui, les jeunes actifs d'aujourd'hui vivent dans un monde plus riche. Mais ce monde demande plus de garanties, plus de revenus, plus de contraintes et souvent plus d'aide familiale pour y rentrer.
T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter.
Nous voilà donc au cœur du paradoxe. Comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, deux choses peuvent être vraies en même temps. La société française peut être plus riche, plus équipée, plus confortable. Et l'entrée dans la vie adulte peut malgré tout être plus difficile pour les jeunes. Parce qu'un budget de ménage plus élevé ne signifie pas forcément une vie plus simple et moins contraignante. Alors, est-ce que ce supplément de confort matériel compense un accès plus difficile aux fondations de la vie adulte? Un emploi stable, un logement accessible, une autonomie réelle ou un budget qui respire? Aujourd'hui, les jeunes ont certes plus de confort, mais ils ont bien moins d'air pour commencer dans la vie. Et ce fait change tout. Nous espérons que ce quatrième épisode vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous pour le tout dernier épisode de notre série « Les boomers ont-ils eu la vie facile ?» avec un sujet brûlant, les retraites. Pour découvrir les trois premiers épisodes, vous pouvez retrouver les liens dans la description. On compte sur vous pour vous abonner, liker ou partager cette vidéo si celle-ci vous a plu. À bientôt !